de Sécheresse, un épisode Cévenol, l'eau dans le sud Aveyron. Une série d'émissions écrite et réalisée par Lola Cross, journaliste indépendante, dans le cadre d'une résidence de journaliste portée par Radio Larzac grâce au soutien de la DRAC Occitanie. Première goutte, l'eau qui nous entoure.
Constitue à plus de 70%. Il y a l'eau qui nous entoure, qui coule sous nos yeux, qui dort sous nos pieds depuis des centaines d'années. Il y a l'eau dans laquelle on plonge dès que reviennent les beaux jours. Il y a celle qui tombe sur nos têtes, s'infiltre à son tour sous nos pieds, en quelques jours ou parfois quelques mois, et qui rejoint les réserves souterraines et le lit des rivières. Il y a l'eau qui peut, momentanément, nous déborder, déchaîner. Et puis il y a l'eau qui manque, quand les étés sont chauds et les pluies capricieuses. Il y a l'eau que l'on prélève, que l'on traite, que l'on consomme pour nous nourrir, nous laver, arroser nos jardins. Il y a l'eau que l'on prélève pour nourrir les troupeaux, irriguer les cultures, laver les cuirs. Et celle que l'on rend aux rivières, aux milieux aquatiques, à la biodiversité, pour qu'en aval, les mêmes cycles puissent être organisés aussi. Se questionner sur l'eau qui nous entoure, c'est d'abord comprendre que coexistent deux cycles, le grand cycle de l'eau et le petit cycle de l'eau, celui dont nous, humains, organisons la gestion pour nos besoins. Et ce n'est pas un hasard si Millau porte ce nom, au milieu des eaux. Construite à la jonction du Tarn et de la Dourbie, tout le bassin de vie s'est développé autour de son or bleu. Dans cette série de podcasts dédiée à l'eau, ses usages et ses enjeux en Sud Aveyron, nous allons tenter de faire un état des lieux de la ressource. Dans quelle quantité est-elle naturellement présente sur le territoire et dans quelle qualité? Quelles sont les menaces qui pèsent sur elle, à la fois sur sa quantité et sa qualité, dans un contexte de dérèglement climatique, dans le contexte d'une succession chaotique d'épisodes cévenols et de sécheresse, et dans la perspective étudiée scientifiquement d'une raréfaction de la ressource? Comment réguler les usages de l'eau pour apaiser d'éventuels conflits en cas de tension sur la ressource? Et comment vivre sur un territoire bordé d'eau, d'une eau qui peut nous déborder à tout moment? Ce sont autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre en tendant le micro à toute une flopée d'acteurs locaux. Ils et elles sont hydrogéologues, élus, citoyens engagés, écoliers et lycéens, entrepreneurs, agriculteurs. Ils et elles sont issus d'univers différents, mais ont tous en commun ces rivières avec lesquelles nous cohabitons et l'envie de préserver la ressource qui fait la richesse du territoire depuis des millénaires.
La date du jour. La date du jour.
Lundi 30 juin.
Bonjour.
Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas en ces jours de canicule, Pauline?
Casquette et gourde.
Clara prend aussi le bidon pour qu'on en ait en plus, mais on boit.
C'est à Nantes que je vous propose de commencer notre périple, et plus particulièrement avec la classe primaire de Camille Vérin, qui, depuis 2 ans, a été labellisée aire terrestre éducative.
Parce qu'on est protecteur des 3 rivières.
Et l'année dernière, on a eu un diplôme. Du coup, on doit protéger ces aires terrestres éducatives.
Qu'il n'y ait pas de déchets dedans, parce qu'on a les poissons, de barrages.
Et puis c'est surtout que c'est grâce à ça qu'on peut boire.
Oui.
Donc ceux qui le souhaitent peuvent enlever chaussettes et chaussures et rentrer dans l'eau. Qui le souhaite? Voilà, maintenant, bah allez-y.
C'est la première année qu'on fait ça.
Ouais. L'année dernière, on était allé à la pêche.
Oui. Ah oui, c'est vrai, on a mis les pieds dans l'eau.
On y va?
Oh là là.
Oui, pourquoi oui? D'accord.
Mais ça fait quand même un peu fort.
Oui, c'est possible.
Il y a une rivière à galets. Ah oui. Faites attention, c'est une rivière à galets, ça peut faire mal.
Elle est froide, Pio.
Alors, on va pas vous empêcher de chanter. Toujours vers votre gardienne. Ah oui, elle est froide, hein.
Ça mouille les glaces.
Nous sommes les gouttes, nous sommes les gouttes d'un seul océan, d'un seul océan, ayez va.
choisissez votre meilleur point de vue sur la gardienne pour la saluer pour votre... Merci, vous êtes applaudi là-haut.
Oui, je vous écoutez dans vos dents.
Oui. Allez, saluez la gardienne.
On va faire au moins 50
votre
mètres de haut.
Plus beau salut parce que c'est le dernier, on la retrouve l'année prochaine.
C'était pour choisir, pour chanter la gardienne pour le pour la parce que nous on...
Et c'est qui la gardienne alors?
C'est l'eau.
Et qu'est-ce que vous lui dites dans la chanson?
Les sommes les gouttes parce que depuis qu'il pleut il y a des gouttes et ça pleut et donc l'eau.
Ils ont une légitimité par l'Office français de la biodiversité qui a donné à ces enfants-là, à cette classe-là, la promotion, la défense, la protection de cet espace-là. C'est vraiment quand tu fais le dossier d'ATE, tu détermines vraiment une zone très précise en fait. Donc nous, on l'a appelé le croisement des rivières. Puisqu'il y a la Dourbie, il y a la Barbaresque là, qui est la troisième rivière de Nantes qui arrive derrière le pont, et le Durzon qui arrive notamment par les canaux. Le fait d'être une aire terrestre éducative, ils sont des interlocuteurs reconnus par les autres partenaires, et c'est super important. Franchement, ça, on l'aurait fait, enfin voilà, on donne de l'importance à ce que font les enfants, mais là, le fait qu'il y ait une reconnaissance institutionnelle, franchement, ça assoit et ça facilite les interventions des autres partenaires aussi, qu'on a rencontrés dans la classe. On a eu plusieurs fois les différents acteurs du syndicat mixte du bassin Tarnamont. On a la mairie, la fédération de pêche. On travaille vraiment et c'est des gens qu'on consulte, quoi. Enfin, les élèves sont des gens qu'on consulte. Donc, voilà. Donc, ils ont prévu 3 panneaux qu'on est en train de finaliser, qui sont à l'école. Enfin, le brouillon est à l'école. Après, c'est le bassin qui va nous les fabriquer en dur. Ils veulent en mettre un ici, au bord de la Dourbie, sur la biodiversité. Comment respecter la biodiversité? Qui habite par ici et comment le préserver? Il y a effectivement sur la pollution, sur les barrages et tout ça, les gestes pour protéger, ce panneau-là c'est le plus fourni. Et ils ont voulu faire un panneau qu'on va mettre à l'entrée du chemin du Roc Nantais pour dire pourquoi est-ce qu'il faut aller dehors, à quoi ça sert d'aller dehors, pourquoi c'est important. Donc ça c'est vraiment une initiative tout à fait personnelle qu'on a suivie, donc parce qu'on va justement écouter la nature, parce qu'on est mieux là que devant les écrans, parce qu'on rencontre des copains, parce que voilà. Donc il y a ce panneau là et il y a le panneau du cycle de l'eau, revisité sur la Dourbie, en fait, sur les 72 km de la Dourbie. Donc ça c'est un panneau où le cycle de l'eau, c'est un truc classique qu'on travaille en cycle 2 sur l'évaporation, etc. Et jusque donc à la mer. Et donc là, on a suivi, on a une photo de la source de la Dourbie et la ligne de partage des eaux. Et donc les enfants ont suivi, on l'a composé avec des photos, des images, etc. Tout ce cycle de l'eau jusqu'à l'Atlantique. Et donc ça, ils font ce panneau qu'ils veulent mettre dans le village, là, pour le coup. Ils veulent le mettre au centre du village, voilà, qui explique ce cycle de l'eau et que tout commence là, à nos pieds, en fait.
Surnommé les Jardins de l'Aveyron, le village de Nantes jouit d'une eau en abondance. C'est là encore que je retrouve Philippe Bouilly, un passionné d'hydrogéologie.
L'histoire de Nantes, d'après ce que j'en sais ou ce qu'on en sait, l'histoire connue remonte au 10e, 11e siècle, où des moines sont venus s'installer, ont fondé une abbaye et ont entrepris d'assainir cette zone qui était marécageuse. Le Durzon existait bien sûr à l'époque, et puis il y avait toute une zone de marécage entre sa source et le village de Nantes. Donc ils ont assaini, ils ont entretenu, ils ont créé, ils ont drainé, ils ont fait des travaux pour créer ce jardin de l'Aveyron dont je parlais. Et puis depuis, entre le Moyen-Âge et l'époque actuelle, ça a été cultivé, il y a eu d'autres actions de drainage, le lit du Durzon a été en partie canalisé, des berges ont été constituées. Donc cette fonction de zone humide, voire marécageuse, que le Durzon avait depuis la nuit des temps, a disparu peu à peu. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, sauf en sa partie tout à fait amont, juste à la sortie de la source, hein, de l'exurgence, où il reste encore une zone qui a cette fonction, tout le trajet aval entre cette partie amont et puis non, ben, est cultivé et drainé.
Alors, c'est dans les années 57 que la commune a demandé à des plongeurs professionnels d'aller voir si la source pouvait alimenter la commune en eau potable.
Alain Fournier, président de l'association Nantes Nature et Patrimoine, créée pour entretenir les canaux et surveiller les rivières.
Et il s'est révélé très rapidement qu'en réalité, oui, il y avait une très bonne quantité d'eau. Et depuis qu'on tire l'eau de la source du Durzon pour l'alimentation, 14 communes du Larzac, qui jusqu'aux années 60 étaient alimentées et ont porté l'eau par des camions, sont alimentées maintenant, ils ouvrent le robinet, ils ont l'eau du Durzon. C'est vrai, c'est toujours le cas. Et encore plus maintenant, parce que à la cavalerie, avec l'armée là-haut, il en faut de l'eau.
Philippe Bouilly.
L'usage de cette eau du Durzon, elle a plusieurs usages. De l'eau potable est prélevée pratiquement au bout de la source, envoyée via une canalisation au niveau d'une usine de contrôle, de traitement, et ensuite restituée à tous les utilisateurs de cette eau, à savoir Nantes, mais beaucoup d'autres communes. Hein, ça, sur le plateau, ils sont alimentés par cette eau. Enfin, il y a beaucoup de communes alimentées par cette eau. Il y a une partie de l'eau qui est utilisée par la pisciculture, une pisciculture juste en aval de la source. Hein, donc, par contre, cette eau est restituée effectivement en amont, en aval. Et puis, il y a une partie de l'eau qui va être utilisée au niveau du village pour l'irrigation, pour l'arrosage, les prairies aussi qui sont le long du Durzon. Alors, le Durzon, donc, il y a à peu près 7 km, sa source, son émergence de la roche. C'est une rivière qui n'est pas tumultueuse, on n'a pas l'impression. Elle s'écoule assez doucement, assez lentement, hein, avec un débit assez constant dans le temps, enfin, on en parlera plus tard, mais qui ne connaît pas de grosses variations. Il y a bien sûr un étiage et puis des périodes plus avec un débit plus important, mais il n'y a pas des crues exceptionnelles. C'est une rivière qui paraît assez tranquille. Autant la Dourbie présente des portions où elle est très agitée, très, très tumultueuse. Le Durzon, c'est une rivière plus tranquille qui s'écoule en grande partie sous un couvert de boisés, avec des zones d'ombre qui sont très agréables. Ces berges, ces ripisylves sont belles. Il y a toute une biodiversité qui est... Donc c'est vraiment une belle rivière et un bel environnement qui invite, parce qu'il y a des petits chemins autour, hein, notamment dans sa partie amont, qui invite à la promenade, à la méditation, à plein de choses positives. Voilà. La Dourbie provient des contreforts des Cévennes, donc de hauteurs beaucoup plus importantes. Elle est alimentée par les pluies cévenoles, enfin les épisodes cévenoles, donc parfois elle a des épisodes de crues très violents. L'alimentation du Durzon, elle est souterraine. Donc le fait que cette eau soit souterraine fait que son alimentation est en quelque sorte différée, c'est-à-dire que l'eau tombe sur son bassin d'alimentation, sur sa zone d'alimentation qui est située sur les causses, donc en altitude. Et puis avant d'atteindre la zone dite saturée de ce réservoir, donc où l'eau est présente, eh bien il s'écoule un certain temps. Et ce temps entre les précipitations et la sortie de l'eau fait que cette eau finalement est assez régulée. Le débit de cette eau est relativement régulé. Voilà. Le Durzon provient de ce qu'on appelle un aquifère, c'est-à-dire un réservoir, hein, pour faire simple, karstique. La roche est parcourue par des conduits plus ou moins grands, des fissures plus ou moins grandes qui s'élargissent, deviennent des conduits, qui facilitent le transport de l'eau et qui font que le réservoir d'eau contenu dans cette roche, dans cet aquifère, eh bien, il est, pour l'essentiel, pas que, mais pour l'essentiel, contenu dans ce réseau de conduits qui sont plus ou moins bien connus. Hein, et donc, c'est ce qu'on appelle un aquifère karstique. Le karst étant un terme qui provient, c'est un terme de géographe, qui provient d'une région du centre de l'Europe, hein, vers la Yougoslavie, où ça a été décrit pour la première fois, et qui correspond un modelé géographique dans lequel on a des roches calcaires qui, par l'action de l'eau de pluie et une chimie associée à cette eau de pluie, sont dissoutes peu à peu au cours du temps et génèrent ces conduits dans lesquels l'eau peut s'installer et circuler. Voilà. Et sortir en certains points, qu'on appelle des exurgences ou des résurgences, des sources pour faire simple. Et cette eau, donc, a un caractère très particulier. C'est très différent, par exemple, de ce qu'on peut communément appeler un aquifère de rivière, où l'eau est stockée dans des petites pores qui sont entre les galets, le sable, etc. Ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Alors, sa qualité est bonne, voire très bonne, pour différentes raisons, puisque il n'y a pas... Dans cette, alors son bassin d'alimentation, son aire d'alimentation, c'est une grande surface qui est sur le Larzac. Et sur cette aire d'alimentation, il n'y a pas d'industrie, il y a peu d'habitations, il y a quelques cultures. Donc la seule source d'impact potentiel, et un petit peu réel pour certains cas, provient effectivement des intrants ou des éléments chimiques que certains agriculteurs pourraient utiliser, hein, comme le glyphosate par exemple. Mais ça reste très limité, et toutes les analyses qui sont faites régulièrement au niveau du Durzon, parce qu'il est très suivi évidemment, comme tout captage d'eau potable, montrent qu'il y a très peu d'impact. Donc c'est une eau pour l'instant de très bonne qualité. Alors effectivement, le caractère karstique a le gros défaut effectivement de rendre cette eau vulnérable, parce que si une pollution arrive, elle s'introduit très facilement et très rapidement dans le réseau, et elle arrive très rapidement à l'émergence. Ça, c'est le point un petit peu faible d'un système karstique, contrairement à un système alluvial pour eux, où là, ça prend beaucoup plus de temps. Effectivement, voilà. L'avantage, par contre, c'est que ça ressort vite. Voilà. Donc, si c'est une pollution ponctuelle, ça va apparaître rapidement, mais ça va disparaître rapidement. Voilà. C'est, donc, il y a avantage, inconvénient. Mais c'est effectivement classé comme étant des aquifères vulnérables.
Si l'on dézoome un petit peu pour mieux comprendre où est l'eau à l'échelle du Sud-Aveyron, en quelle quantité et en quelle qualité, je me suis tournée vers Laurent Danneville, hydrogéologue et directeur adjoint du parc naturel régional des Grands Causses.
C'est vrai que souvent, on voit l'eau dans les rivières, on pense que c'est voilà, des eaux qui sont tombées il y a peu de temps, de précipitations. En fait, c'est souvent des eaux qui sont tombées il y a très longtemps, puisque plus de 80% des eaux qui passent dans nos cours d'eau, bah, ce sont des eaux souterraines. En fait, ce sont des eaux plutôt de ruissellement pendant quelques jours lorsqu'il y a des fortes précipitations et des crues. Là, oui, il y a une composante ruissellement qui est importante, mais au bout de quelques jours, elle va s'arrêter, on va dire. Et donc, par la suite, bah, ce sont les eaux souterraines qui prennent le relais. Alors, des eaux souterraines qui peuvent provenir de différents contextes géologiques. Hein, ça peut être des granites, des schistes, des alluvions, ou chez nous, il y a le karst. Et donc, voilà, toute l'année, on a ces eaux souterraines qui vont alimenter l'ensemble de nos sources, puis qui vont alimenter nos cours d'eau. Et donc, heureusement qu'on a ces aquifères hein, qui régulent pour alimenter nos cours d'eau, parce qu'autrement, ben, on serait à sec une grande partie de l'année. Alors, comme je disais, le parc, on a la chance d'avoir des formations calcaires, karstiques, qui sont importantes. On a plus de 65% du territoire qui est composé de ces formations. Et ces formations, eh ben, elles vont permettre justement de stocker cette eau qui va s'infiltrer via les précipitations et de la réguler. Alors il y a une partie qui va s'infiltrer rapidement et arriver aux sources en quelques jours, ce qui va former des crues et des problèmes des fois de qualité d'eau. Et puis la composante plus lente, eh ben, elle va rester plusieurs mois, plusieurs années, enfin le temps moyen c'est un an et demi. Il y a des datations qui ont été faites, notamment sur la source de Durzon, avec certains protocoles, et en quelques eaux auraient apparemment 30 ans. Et ça va permettre justement d'alimenter ces sources, qui sont souvent captées par les collectivités pour l'eau potable, et alimenter nos rivières, hein, puisque plus de 90% de nos rivières, du débit de ces rivières, sont alimentées par les eaux souterraines. Alors on les a chiffrées grâce à nos études hydrogéologiques qu'on a menées depuis une vingtaine d'années à peu près 250 millions de mètres cubes sur le territoire du parc. 500 millions si on prend l'ensemble des Grands Causses. Donc ça c'est pour une année moyenne. Et si on fait une comparaison par rapport à d'autres stockages d'eau superficielle, notamment dans des barrages, ceux du Livezou qu'on connaît ici, Si on prend Pont de Salars, Parloux et Villefranche-de-Panat, c'est 205 millions de mètres cubes quand c'est plein. Donc ça permet de comparer par rapport aux 500 millions avec des eaux souterraines. Bon, ben, forcément qu'on ne voit pas, mais qui sont vraiment présentes et qui vont alimenter nos cours d'eau. Alors les études hydrogéologiques qu'on a menées depuis plus de 25 ans en fait sur le territoire, c'était de pouvoir définir les bassins d'alimentation de nos sources, hein, les sources principales, puisque chaque source a un bassin d'alimentation, un impluvium on va dire, où les eaux vont s'infiltrer et rejoindre cette source. Donc ces études hydrogéologiques ont été menées sur plusieurs années, avec différentes thématiques utilisées, la géologie, la tectonique, la géomorphologie, l'hydrochimie, la mesure des débits, les traçages, la vulnérabilité, nous ont permis bien sûr de définir donc ces bassins. On en a peut-être 300 sur le territoire important, avec les plus importants qui ont des surfaces de plusieurs kilomètres carrés. Hein, le Durzon fait 100 kilomètres carrés en surface. Donc maintenant, on a cette connaissance sur le territoire, sur l'ensemble du territoire du parc. Donc c'est vrai que c'est important pour les aménagements qui sont réalisés ou les risques qui peuvent exister sur le territoire. Maintenant, on sait quand il y a un peu loin où il va arriver. Et donc c'est pareil pour les documents d'urbanisme, que ce soit le SCOT que le parc est en train de revoir, ou les PLUI pour les collectivités, c'est important d'intégrer cette ressource en eau et ces bassins d'alimentation et ces périmètres de protection lorsqu'ils sont déterminés pour mieux protéger cette ressource. Alors c'est vrai que sur le territoire du parc, sur les grands causses, il y a certaines causses qui sont un peu plus sauvages que d'autres, on va dire, mais on a quand même des activités, il y a toujours eu des activités, hein, il y a eu le pastoralisme, il y a des habitations, donc c'est vrai qu'il peut y avoir quelques effluents, que ce soit domestiques ou agricoles, qui peuvent partir dans le milieu, même si c'est mieux maîtrisé maintenant, donc c'est important d'avoir ces bassins d'alimentation et puis le recensement des activités principales qui peuvent exister pour mieux gérer le risque. Alors si on prend cet exemple, c'est vrai que c'est un aménagement quand même assez récent qui traverse le territoire du parc, qui passe sur le causse du Larzac, le causse rouge, le causse de Sauveterre. Et donc c'est vrai que nos études nous ont permis de voir où l'autoroute passait par rapport aux sources captées, et donc on a pu définir en effet les bassins d'alimentation qui étaient concernés. Et par rapport à ça, on a travaillé avec la direction interdépartementale des routes pour essayer de faire notamment des traçages derrière les bassins de décantation qu'ils ont mis sur l'autoroute pour gérer les eaux pluviales de la plateforme autoroutière. En cas de départ intempestif de polluants, on peut mieux gérer maintenant le risque grâce à les traçages qui sont réalisés depuis ces bassins. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir ces éléments, et pour les collectivités, les syndicats d'eau, d'avoir ces éléments pour mieux gérer le risque. Alors depuis quelques années, en effet, on va un peu plus loin dans la communication par rapport à la gestion de la ressource. On produisait quelques rapports sur la quantité et la qualité. Depuis quelques années, avec notamment le changement climatique, on a eu des périodes de crise importantes, notamment en 2022, en 2023. Et donc on a souhaité faire des bulletins plutôt mensuels en période de crise pour les services de l'État, pour les collectivités, pour leur montrer un petit peu où on en est par rapport à la ressource, comment pourrait se passer l'étiage, donc la période de basse eau. Donc c'est un bulletin qu'on essaye de mettre en place assez régulièrement avec quelques stations de référence qui sont télétransmises. Et donc on produit régulièrement depuis quelques années. Alors si on regarde l'évolution, en effet nous on a remarqué, alors on a de la chance d'avoir donc ce CARST, ces aquifères karstiques qui régulent quand même nos infiltrations. Mais comme on a un changement en fait dans les précipitations dans l'année, on a des épisodes des fois qui sont plus intenses. Donc même si le CARST régule, on a quand même des intensités de crue un peu plus importantes et des périodes d'étiage aussi un peu plus longues, puisqu'on a des cycles hydrologiques qui reprennent plus tardivement dans l'année. Il y a une vingtaine d'années, on prenait le 15 septembre, on est passé au 15 octobre, depuis quelques temps on est au 15 novembre, vous voyez, donc on a un ou deux mois des fois de plus, et donc du coup on a des débits qui sont un peu moins importants forcément dans nos cours d'eau. On a des étiages donc beaucoup plus importants. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on ait des bonnes recharges en hiver et au printemps pour passer ces périodes. Alors sur la qualité des eaux, c'est aussi une thématique qu'on nous surveille depuis pas mal d'années aussi. On a sur le territoire une trentaine de stations où on fait des prélèvements réguliers, 5-6 fois dans l'année. On est sur un territoire, si on résume, qui est quand même avec des eaux de bonne qualité par rapport à d'autres territoires au niveau national. Donc des eaux qui sont assez minéralisées parce qu'on a des eaux plutôt calcaires, bien sûr, avec parfois, en effet, par rapport à la vulnérabilité du karst, des problèmes de bactériologie, mais qui sont très localisés. On n'a pas de dépassement d'éléments par rapport aux limites de qualité, par rapport à l'eau potable. On surveille certains paramètres, forcément, comme au niveau national, on est vigilant sur pas mal de choses, mais on n'a pas de soucis particuliers sur le territoire, malgré les activités qui peuvent exister. Et donc les eaux, voilà, sont, les analyses sont faites régulièrement et bancarisées sur une base de données qui s'appelle ADES au niveau national, que les personnes peuvent consulter. Hein, donc les eaux, voilà, sont de bonne qualité. On a une surveillance depuis une vingtaine d'années sur la qualité des eaux.
Ici, Laurent Danneville évoque la qualité des eaux souterraines que le parc naturel régional des Grands Causses analyse en continu avec l'appui de laboratoires certifiés pour évaluer la conformité de leurs prélèvements. D'après l'agence de l'eau Adour-Garonne, tout l'Aveyron est classé en vulnérabilité modérée concernant la quantité de ces eaux souterraines. C'est cette même agence de l'eau qui analyse les rivières, les cours d'eau et autres lacs du département. La faune et la flore aquatique sont d'excellents indicateurs de la qualité écologique des eaux superficielles. Aujourd'hui, plus de 700 paramètres sont suivis et étudiés. Cela va des macropolluants, comme les matières azotées, phosphorées ou organiques, jusqu'aux micropolluants, comme les phytosanitaires, les métaux ou encore les hydrocarbures. Quant au contrôle sanitaire des eaux de baignade, là, pour le coup, et de l'eau captée pour la consommation humaine, ce suivi-là est assuré par les agences régionales de santé, mais nous y reviendrons. Il ne suffit pas d'avoir de l'eau en abondance. Le Tarn, la Dourbie, le Cernon, le Lumanzonesque, la Muse, le Dourdou de Camarès ou encore le Rance sont autant de cours d'eau qui zèbrent nos paysages. Et si l'eau est reconnue comme un patrimoine commun de la nation, cela signifie que chacun est en partie responsable de sa protection. Depuis 1964, en France, la gestion de l'eau est organisée selon une logique de bassin versant. À l'échelle du Miavois, par exemple, à cheval avec la Lozère, c'est le syndicat mixte du bassin versant Tarn-Amont qui a pour responsabilité la gestion globale et concertée de l'eau et des milieux aquatiques. C'est là que je rencontre Florian Ferjot et Maxime Hézard.
Donc nous, notre métier consiste avant tout à gérer les milieux aquatiques. Il consiste à faire des états des lieux de l'état des cours d'eau, état de la végétation, état physique du cours d'eau, de constater d'éventuels problèmes, de le partager avec les élus, les riverains, les acteurs de l'eau et de proposer des actions à la fois correctives pour rétablir le problème ou à la fois préventives pour éviter que le milieu poursuivre une éventuelle dégradation. Donc on a élaboré un programme pluriannuel de gestion sur tout le territoire du Tarn-Amont. Donc je le rappelle, il représente presque 1900 km de cours d'eau avec des secteurs très naturels, très sauvages et des secteurs un peu plus utilisés avec des secteurs de gorge et des secteurs voire un peu urbanisés comme le secteur de Millau. Donc le programme pluriannuel de gestion a été déclaré d'intérêt général, ce qui nous permet d'investir de l'argent public sur des propriétés privées. Petit rappel, donc on est sur des cours d'eau non domaniaux, c'est-à-dire que chaque parcelle, chaque bord de rivière appartient à un propriétaire privé. Et donc la berge lui appartient et le fond du lit également. Donc l'eau appartient à tout le monde, on peut très bien naviguer, nager dans l'eau, pas de problème. Par contre, dès qu'on pose le pied à terre, on est chez quelqu'un. Et donc ce quelqu'un, soit c'est un propriétaire privé, soit ça peut être également des propriétés publiques, donc du domaine de la commune, commune de Millau, communauté de communes. Et en fait, on a sur le territoire du Tarn-Amont près de 70 000 propriétaires riverains concernés par un bord de berge, parce qu'on a quand même 1900 km de cours d'eau. Et donc à chaque fois qu'on intervient sur une propriété privée, on identifie le propriétaire et on lui demande une autorisation de passage et de travaux pour pouvoir investir cet argent public chez lui.
Alors les travaux qu'on va réaliser, nous, de manière annuelle, on a des tranches d'entretien de la ripisylve, qui est la végétation en bord de rivière, où on va venir couper ou enlever des arbres de manière préventive qui pourraient, en cas de crue, faire embâcle, donc des bouchons de bois qui vont se former dans le lit du cours d'eau ou en travers d'ouvrages comme les ponts, et générer des surinondations, voire même la destruction d'un pont avec, enfin, qui va finir par faire barrage. On va également réaliser tout un tas d'actions en fonction de la préservation ou pour restaurer des milieux naturels comme des zones humides qui sont des zones de plutôt situées sur les zones de source qui sont des zones éponges où l'eau va venir s'infiltrer en période automnale ou hivernale, vont être restituées progressivement pendant les saisons plus sèches, donc au printemps ou à l'été, et ces zones humides en fait vont réaliser pour nous tout un tas de services environnementaux comme l'auto-épuration des eaux et un relargage en période d'étiage, donc pour maintenir un niveau d'eau suffisant pour maintenir notamment la vie biologique aquatique, les populations de poissons, les cohortes de macro-invertébrés benthiques, qui sont les petits insectes qui vivent au fond de l'eau, et qui sont la base de la chaîne alimentaire de nos rivières. Alors les actions qu'on va mener sur les zones humides, ça va être en lien souvent avec les éleveurs qui vont pâturer ces zones, soit pour empêcher des fois qu'il y ait des projets de drains qui se fassent, donc ils vont évacuer l'eau, soit pour limiter les effets du piétinement du bétail lorsqu'il est trop concentré sur certaines zones.
Et les opérations de travaux de restauration, ça va être principalement de la mise en défense, la mise en place de clôtures pour éviter que les bêtes, bovins, ovins, caprins, viennent piétiner les berges, impacter le lit du cours d'eau, pour garder une eau en quantité et en qualité. Et donc on peut également proposer d'autres travaux pour conserver l'usage agricole, notamment d'aménagement de points d'abreuvement. Donc on peut éviter que les vaches viennent directement s'abreuver dans le cours d'eau. On vient mettre des abreuvoirs déportés, donc soit qu'ils viennent capter une petite source ou qu'ils captent directement le cours d'eau. Et comme ça, les bêtes, elles sont alimentées dans une eau qui est toujours de bonne qualité. Elles ne viennent pas piétiner ou souiller cette eau quand elles vont la boire. Donc voilà, ça permet d'avoir une eau de qualité et en quantité suffisante pour conserver les usages. Notre enjeu, c'est toujours de préserver le milieu aquatique, la zone humide, qui est très très riche d'un point de vue biodiversité. On parle de plantes protégées, d'insectes protégés, ou même d'écrevisses à pattes blanches qui sont des écrevisses autochtones et présentes sur ces milieux-là, ou en tout cas en bordure des zones humides et des petits cours d'eau de zones de source. Et à la fois préserver la partie agricole, qui est essentielle pour maintenir un paysage ouvert. Et voilà, c'est une activité de tout temps, donc il faut absolument la conserver. Oui, c'est clairement ça. À chaque fois qu'on vient voir un propriétaire riverain pour un conseil technique, soit pour préconiser une protection de berge, à la fois en génie végétal avec des plantations, on va aussi en profiter pour lui montrer un peu la biodiversité qui l'entoure. On pense notamment à la présence d'espèces protégées comme le castor, la loutre, qui peuvent avoir aussi un impact sur la végétation des berges, ce qui est souvent le cas d'ailleurs avec les rongements des arbres par les castors. Et en profiter également à leur expliquer que voilà, dans l'eau, il y a aussi des petites bêtes, des petits invertébrés, il n'y a pas que des poissons, et que ces petites bêtes, sous les cailloux, elles participent aussi à l'auto-épuration, et que naturellement, le cours d'eau a une capacité à recueillir une sorte de charge polluante. Tous les intrants, tout ce qui se passe sur les versants vont systématiquement arriver jusqu'au cours d'eau. Donc si le cours d'eau fonctionne bien, s'il a une bonne végétation, on parle de phytoépuration, on l'a dans certaines stations, on fait fonctionner des roseaux pour épurer l'eau, et bien là on l'a naturellement avec cette végétation qui va se développer soit sur les rives, soit dans l'eau. Et également tous ces micro-organismes qui sont présents, on parle des bactéries, on parle des invertébrés, qui vont eux décomposer un morceau de feuille morte, décomposer un morceau de bois dans l'eau. Donc voilà, tous ces éléments sont essentiels à maintenir et à préserver. Donc c'est les conseils qu'on va donner aussi aux propriétaires riverains qui veulent souvent bien faire, veulent garder leur petit coin de paradis en bordure de cours d'eau, mais souvent par méconnaissance, voilà, ont des activités ou des usages qui peuvent aller à l'encontre du cours d'eau. Donc c'est vraiment le message qu'on essaie de tenir auprès des riverains.
Oui, quand on est effectivement sollicité pour donner un conseil technique en bord de cours d'eau, on essaye aussi de porter un message ou d'inciter la personne à porter un regard global sur la rivière, se décentrer un peu de son problème localisé, Bon, nous, on est des structures de bassin versant, et donc c'est vraiment cette notion qui est intégrée dans nos missions, c'est de regarder le trajet de la goutte d'eau. Lorsqu'elle tombe du nuage de pluie, elle va traverser tout un tas de parcelles et se charger des différentes activités qui ont lieu sur son parcours. Des polluants qui pourraient venir dégrader sa qualité, et donc quand elle arrive dans la rivière aussi va refléter cet état des versants. Des versants qui sont préservés, bien fonctionnels, vont peu impacter la goutte d'eau. Ouais, mais si des activités sur les versants sont un peu néfastes, on va dire, et ben ça va aussi se refléter sur la qualité de l'eau et la présence des espèces aussi qui y vivent.
Je voudrais juste ajouter un point là-dessus. On parle souvent, on voit des algues, on dit tiens, la rivière elle est sale. En fait, c'est pas de la faute de l'algue. Pourquoi l'algue elle est présente? C'est parce que justement cette goutte d'eau qui a traversé un certain nombre d'activités d'usage, je pense à nos propres usages d'habitation, les rejets d'eau usée ou des assainissements qui sont pas complètement conformes, vont apporter des nutriments au cours d'eau, et donc ces plantes-là sont présentes pour capter les nutriments, pour dégrader ces nutriments. Donc en fait, quand on dit souvent sur le Tarn, on voit des renoncules aquatiques qui fleurissent au mois de juin, ah, c'est très joli, puis une fois que ça fleurit plus, ça se dégrade, c'est vrai que c'est un côté pas très accueillant, mais en tout cas ça fait partie du fonctionnement naturel du cours d'eau. Si elles sont présentes, c'est parce que nos usages ont un impact et ont une pression sur le cours d'eau. Et donc si elles sont là, c'est justement grâce à elles que l'eau va être de meilleure qualité, soit pour l'eau potable, soit pour l'eau de baignade. Donc voilà, il faut avoir conscience que c'est pas un côté sale et qu'on est sur un milieu naturel, on n'est pas dans une piscine qui est chlorée. Donc les gens qui viennent profiter des gorges du Tarn, des paysages magnifiques et des beaux cours d'eau, qui viennent en profiter pour la pêche ou pour la baignade ou pour le canoë, ayons conscience qu'on peut tous aussi avoir notre part de responsabilité sur la présence d'une algue, d'une renoncule, d'une plante qui est présente dans le cours d'eau.
Quand j'ai commencé à sortir mes micros, au printemps, les esprits étaient plutôt sereins, les nappes étaient hautes, les rivières aussi. Depuis 2 ans, les hivers et les printemps sont venus avec leur lot de pluie. Pourtant, à peine arrivé le mois de juin, 3 semaines de canicule se sont invitées. Les communiqués de la préfecture s'enchaînaient. Les restrictions d'eau 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 sont arrivées sur nos boîtes mail. On sait déjà qu'à l'horizon 2050, le débit des rivières sera réduit de 30%. Le Sud-Aveyron n'y échappera pas. Alors je me suis demandé quelles autres conséquences concrètes le dérèglement climatique laisse planer localement. Et c'est à Nantes que je retrouve Philippe Bouilly.
Et l'idée de, ou un des objectifs de cette association Net en Transition dont je fais partie, c'est d'avoir le projet de redonner à une petite partie, ce qu'on pourra faire, de ce Durzon, de lui redonner cette fonction de zone humide. Pas de marécage, bien entendu, hein, mais d'avoir cette fonction de zone humide qui est essentielle. Pourquoi ? Elle est essentielle pour pas mal de choses. Déjà, une zone humide, c'est-à-dire une zone où on va laisser l'eau, quand il y a un niveau d'eau important, et elle va venir ennoyer les prairies autour. Et puis, quand le niveau va baisser, ça va revenir. Il ne s'agit pas de reconstituer un marécage, c'est juste de redonner une fonction de respiration aux zones, aux prairies qui entourent la rivière, et de redonner des échanges entre les bordures, les prairies, et puis la rivière elle-même. Voilà. Et ça, c'est la fonction, c'est la caractéristique d'une zone humide. Et donc cette zone humide est essentielle parce qu'elle permettra de mieux stocker l'eau, et donc d'avoir une eau disponible de manière plus régulière, de limiter un peu l'évaporation, de redonner de la biodiversité. Et puis, on sait très bien qu'une zone humide stocke aussi du carbone. C'est un long travail qui a à peine commencé. Il faut disposer d'un certain nombre de terrains que les propriétaires ou les locataires voudront bien mettre à disposition. Convaincre ces propriétaires, mais aussi l'ensemble de la population, du bien fondé de cet objectif, parce qu'il faut adhérer, il faut que ça soit une adhésion des Nantais et des gens qui vivent là. Et puis après, il y a tout un travail des travaux peu, je pense, hein, il n'y a pas de grands travaux à faire, des petits aménagements, limiter le drainage, réouvrir peut-être quelques berges pour que les transferts d'eau, les circulations d'eau se fassent entre la rivière et ses berges, et puis laisser un petit peu la nature faire son travail. Parce que pour beaucoup de personnes, pas qu'à Nantes, mais un peu partout dans le monde, enfin peut-être pas dans le monde, mais en tout cas en France, l'eau est jusqu'à présent a été considérée comme quelque chose d'abondant, quasiment éternel, sauf quelques régions où il y a toujours eu des petits problèmes de sécheresse, mais c'est quand même assez nouveau. Depuis quelques années, que certaines régions ou certains villages sont coupés d'eau pendant un certain temps et qu'il y a des craintes qui apparaissent au niveau de la pérennité de l'eau. Alors l'idée de résilience, hein, qui est une idée un peu partagée, hein, ou en tout cas qu'on essaye de partager, qui consiste à dire bah, si demain, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a des problèmes, il y a moins d'eau, eh bien, donnons-nous des moyens, des façons de faire, des façons de consommer qui feront qu'on vivra mieux.
Dans la même volonté de renouer avec des usages ancestraux de gestion de l'eau, le parc naturel régional travaille actuellement à la restauration des mares et lavognes sur le plateau du Larzac, à la fois dans un objectif de protection de la biodiversité, mais aussi comme potentielle solution de stockage de l'eau pour abreuver les troupeaux, comme il était coutume avant l'arrivée de l'eau potable dans les fermes du plateau. Au PNR, je retrouve Laurent Danneville.
Comme je disais tout à l'heure, le dérèglement peut jouer sur l'aspect quantitatif, surtout avec ces épisodes intenses de précipitations qui sont mal répartis dans l'année. Donc le CARS va nous réguler ces précipitations, mais il a ses limites forcément. Donc on peut avoir en effet des périodes où on aura peut-être des débits un peu moins importants si on a des recharges moins importantes au printemps. En termes de qualité, c'est par rapport à cette conséquence du quantitatif. C'est-à-dire que si on a des débits d'étiage un peu moins importants l'été, dans les cours d'eau qui sont le réceptacle de nos effluents de stations d'épuration ou d'autres effluents, on pourra avoir des dilutions un peu moins importantes et avoir des concentrations un peu plus élevées.
Florian Ferjot et Maxime Hézard, au syndicat mixte Tarnamont.
Donc oui, on est sur un territoire où les rivières et les versants sont extrêmement bien préservés, qui montrent bien qu'on est sur des milieux très fonctionnels avec une biodiversité très riche, que ce soit dans la rivière ou sur les milieux terrestres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort à porter. Donc c'est surtout en fait de l'adaptation des pratiques ou un maintien des bonnes pratiques pour préserver à long terme cette bonne qualité des milieux.
En fait, je pense qu'on a quand même subi un épisode de 2022 qui a quand même été une bonne alerte à avoir et une bonne prise de conscience, notamment vis-à-vis de la sécheresse, parce qu'on a eu des printemps secs et des étés très secs. Avec, moi, je me souviens de riverains qui me disaient « un jour, le Tarn y coupera ». Moi, je disais « non, ça ne me semble pas possible parce qu'on a des systèmes avec des résurgences calcaires qui amènent une quantité et une bonne qualité d'eau ». Et en fait, en 2022, on a quand même eu peur sur nombreux endroits, beaucoup de cours d'eau qui ont été avec des niveaux très très bas, de l'impact sur les espèces également. Et du coup, on a vu l'impact sur même les activités et les usages. Je pense à la baignade ou au canoë. On se posait des questions dans certains secteurs du Tarn et notamment sur le secteur de Millau. Et donc aujourd'hui, en 2025, on a quand même un printemps plutôt pluvieux avec des quantités, des recharges des eaux souterraines qui ont été assez abondantes. Mais soyons quand même vigilants et soyons économes dans tous nos usages parce que on ne sait pas ce que l'avenir sera fait demain. Et si ça arrête de pleuvoir pendant 4 mois, on aura le même étiage, quoi. Enfin, les mêmes niveaux d'eau très faibles l'été. Donc soyons vigilants et ayons justement des comportements adaptés et toujours aussi économes, à mon avis. C'est quand même le message à passer, quoi. Nos cours d'eau, ils sont le reflet de ce que nous, on fait sur les versants, quoi. Donc si on vient gaspiller de l'eau, imperméabiliser, dégrader, le cours d'eau aura une capacité à prendre cette charge polluante, mais jusqu'à un certain point.
Après le grand cycle de l'eau abordé aujourd'hui, on se retrouve dans un deuxième épisode pour aborder celui que l'on appelle le petit cycle de l'eau, cette eau que l'on dompte, nous humains, pour répondre à nos besoins, cette eau que l'on prélève et que l'on rend, en partie, au milieu aquatique. Comment dompte-t-on l'eau sans l'altérer ? C'est ce que nous tenterons de démêler dans le deuxième épisode de cette série. Cette série de podcasts a été réalisée dans le cadre d'une résidence de journalistes menée par moi-même, Lola Cross, au sein de Radio Larzac, grâce au financement de la DRAC Occitanie. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la série en podcast sur le site de Radio Larzac.